Je pense qu'aujourd'hui, nous allons aborder la première béatitude et là, on va entrer dans le fond de la matière, si j'ai bien compris.
Oui, c'est ça. Nous étions un peu comme dans une sorte d'introduction générale, définition des termes, des éléments, approche de la réalité concernée, tout ça. Mais là, vraiment, là, nous commençons à être outillés pour aller au cœur même de cette béatitude-là, au niveau de sa nature, de son fonctionnement, au niveau de son objectif et au niveau des expériences qu'elle permet de vivre.
D'accord. Alors, je vous écoute. Parlez-nous du premier bloc.
Bon. Alors, justement, on avait déjà dit que dans chaque béatitude, il y a deux thèmes bibliques, c'est-à-dire deux façons de voir Dieu, le monde, la vie, l'Église, l'homme. C'est la définition d'un thème biblique. Alors, vu que dans chaque béatitude, il y en a deux, ça fait déjà 16 thèmes bibliques. Là, nous abordons le premier thème, qui est justement la pauvreté des pauvres de Yahvé, la pauvreté, qui est un thème biblique. L'autre bloc, ou l'autre thème, qui est à la fin de la première béatitude, c'est le royaume de Dieu, ou le royaume des cieux. Alors, c'est l'autre thème biblique. Le fonctionnement de la béatitude, c'est la corrélation active, interrelationnelle entre ces deux blocs. Vous voyez, on dit souvent la béatitude des pauvres, mais on dirait que personne pense à dire la béatitude du royaume.
On oublie de parler du royaume.
On oublie de parler de du bloc le plus important.
De la compensation qui vient.
C'est plus qu'une compensation, c'est le fonctionnement même du premier bloc qui inclut le deuxième, qui nécessite le deuxième. C'est parce que le royaume existe qu'on va devenir pauvre dans le sens du bonheur. Sans ça, ça n'a pas de sens.
La pauvreté par elle-même n'a pas de sens.
Absolument pas. La misère n'a pas de sens. C'est anti-Dieu. Dieu veut qu'on la détruise, la misère. On peut toujours l'offrir quand on ne peut pas faire autrement, mais il reste quand même qu'il faudra que d'une façon ou d'une autre, elle disparaisse. Et on a ça dans le Magnificat, on a ça dans l'Apocalypse, Apocalypse 21:7, elle reste. Alors, le bonheur, c'est le royaume de Dieu. Alors, qu'est-ce que c'est que le royaume de Dieu? Alors, le deuxième bloc, on serait peut-être mieux d'en parler en premier, c'est la réalisation du Notre Père. Le Notre Père, c'est le dessein de Dieu. Si c'est une prière, c'est parce que c'est un programme. Alors, on demande à Dieu de le réaliser. Et quel est le fin fond de ce programme-là? C'est l'amour. L'amour entre deux êtres qui veut tout ce que l'autre veut. Alors, que ta volonté soit faite, Seigneur, en moi comme en toi, c'est-à-dire au ciel comme sur la terre. Alors, c'est la réalisation de la béatitude. Autrement dit, nous nous construisons une cellule intérieure, ou on devrait plutôt dire l'Esprit-Saint nous fait réaliser une cellule intérieure au-dedans de nous, où on rencontre Dieu notre Père, et arriver à jouir de son amour pour nous autres. Au fond, le bonheur, c'est une jouissance de Dieu. Alors, les contemplatifs, au fond, sont des sensuels de Dieu, et c'est toute la pédagogie de l'Esprit-Saint de leur apprendre à souffrir pour augmenter encore cette puissance d'amour de Dieu en nous, pour imiter, évidemment, le Christ, notre Maître, qui, lui, est allé jusqu'à mourir par amour pour nous autres. Alors, à ce moment-là, on a la réalisation parfaite de la mort-résurrection du Christ, qui est d'abord intérieure en nous, en processus, bien sûr, mais dans une joie grandissante. Et quand on parlera de bienheureux ceux qui pleurent, on verra qu'on peut, en étant dans des grandes douleurs, avoir une grande lumière intérieure ou une petite lumière très puissante en nous, une petite lumière de bonheur. Saint Jean de la Croix disait « La vie, c'est une douce brûlure ». Quel est le mot à souligner là-dedans? Les deux. Parce que l'amour, c'est une brûlure. C'est une brûlure tellement qu'elle nous consume dans toute notre être. Et cette première béatitude, c'est la béatitude de la foi d'abord dans l'amour de Dieu pour moi, Raymond Truchon. Pour toi, Aline, pour chacun de nous autres, arriver à croire que Dieu nous aime, c'est la première grâce du Nouveau Testament.
Moi, j'aurais une petite question pour vous au sujet de la béatitude et sans doute des autres aussi. J'aimerais savoir si l'opposé, la contradiction, la négative, elle est également vraie. C'est-à-dire que si nous ne sommes pas pauvres, est-ce que pas nécessairement le royaume de Dieu est exclu?
C'est-à-dire que le royaume de Dieu n'est jamais exclu, il est toujours là. Dieu est toujours partout, on l'a toujours vu même dans le petit catéchisme. Alors, c'est pas Dieu, c'est nous qui ne sommes pas là. Alors, si nous ne sommes pas en amour, nous ne sommes pas dans le royaume.
Mais si nous n'accédons pas à la qualité, à la situation, à la disposition de pauvreté.
Voilà le premier bloc. Alors, vous me posez la question, on parle du premier bloc, bien sûr. Alors, qu'est-ce que c'est le premier bloc? C'est le processus amoureux. Comment ça marche? Quand on était jeune, on nous enseignait la science, l'amour de la science. Aujourd'hui, il faudrait découvrir la science de l'amour. Or, les béatitudes sont la science de l'amour. Alors, quelle est cette science? C'est un processus de renaissance. Quel est ce processus de renaissance? Alors, de même qu'on avait la pauvreté matérielle qui consistait à manquer de biens, à manquer de santé, à manquer d'orientation spirituelle véritable ou de vie ou de sagesse, ou encore d'être désespéré et de combattre tous ces malheurs-là par la foi, c'est les béatitudes selon Luc, ben, dans Matthieu, c'est la misère qu'on a quand on n'a personne à aimer dans notre vie, la misère d'être seul, d'être sans sens et de ne pas savoir qu'on est aimé. C'est la grande misère. Et si Élie a fait une dépression au-dessous d'un arbre, dans deuxième livre des Rois, chapitre 19, c'est parce qu'il a découvert qu'il n'était pas meilleur que les autres. C'est qu'à un moment donné, Élie, il se pensait un peu meilleur que les autres. Alors, il travaillait pour essayer de rapprocher Dieu, il travaillait pour essayer de rapprocher les humains de Dieu et tout ça. Puis finalement, il s'est aperçu qu'il n'était pas meilleur que les autres. Alors, il a fait comme une dépression. Il s'est couché en dessous d'un arbre. Et puis là, il criait à Dieu. Puis finalement, il criait même plus. Il voulait se laisser mourir. Alors, Élie a fait une dépression, seulement il l'a réussi. C'est comme un moment donné, un ange l'a réveillé, puis il a dit « mange », puis par deux fois, à part de ça, tellement qu'il avait besoin. Puis là, à un moment donné, Élie ne comptait plus que sur Dieu. Voilà le processus de l'amour, ne plus compter que sur l'être aimé pour vivre.
Alors, ce que vous dites, c'est que si on n'aime pas, finalement, on se prive soi-même.
Si on n'aime pas, on est en état de mort.
Monsieur Truchon, au sujet de la pauvreté, est-ce qu'il existe des moyens connus d'y accéder à un processus établi qui est valide pour tout le monde?
Oui, il existe un moyen connu, c'est de croire à cet amour infini et inconditionnel et éternel de Dieu pour moi, Raymond Truchon, pour toi, Aline, et pour n'importe qui, oui, pour chacun qui écoute l'émission, c'est de croire. La béatitude des pauvres, c'est la béatitude de la foi en l'amour de Dieu. C'est cette foi en l'amour de Dieu pour moi qui est inconditionnelle, qui est l'élément sanctificateur de ma vie, c'est-à-dire qui me fait vivre, qui va me faire aboutir jusqu'à la vie éternelle. Cette foi en l'amour de Dieu, c'est même l'élément opérationnel de chacun des sacrements. Alors, sans cette foi, en cet amour de Dieu, les sacrements sont handicapés. On a des Alzheimer sacramentels. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Oui. Alors, il n'y a pas de recette mécanique. C'est cette foi en l'amour de Dieu qui est mort pour nous autres, qui nous aime à mort, c'est le cas de le dire. Alors, quels seraient les moyens? Premièrement, la méditation. C'est-à-dire, régulièrement, à divers moments de la journée, sentir son cœur battre, se toucher, puis voir que Dieu m'aime. En faisant ça, mettons...
Du seul fait qu'on se sent vivant.
Oui, ouais, absolument.
Du seul fait qu'on respire, qu'on peut voir la nature.
Oui, c'est déjà une expression du sens de notre vie, c'est que c'est fait par amour de Dieu. Et que Dieu va faire évoluer ça jusqu'à la vie éternelle. Alors, ce qui arrive, c'est qu'en le faisant tous les heures, au moment donné, on va le sentir aux demi-heures, au moment donné, on va le sentir aux minutes, au moment donné, on va le sentir tout le temps. Puis voilà l'objet de la méditation.
Vous dites sentir... que déjà, ça, c'est une forme de méditation.
Absolument, c'est sentir l'être aimé en toutes circonstances. 1 Thessaloniciens 5, 17, 18. Et l'oraison, maintenant, qui est autre chose que la méditation. Alors, la méditation, c'est une saisie de notre vide qui est en fait un acte d'amour que Dieu veut remplir. Alors, se sentir vide, se sentir rien, c'est une bonne piste pour se rendre à Dieu. Et puis, souvent, les épreuves de la vie sont là pour qu'on se tourne vers Dieu, pour nous montrer qu'au fond, on n'est pas si fort que ça. On est capable d'écraser un maringouin, mais en faisant un à présent, c'était capable. Alors, on n'est pas si fort que ça. Nos avions ne se reproduisent pas encore. Les maringouins se reproduisent. Alors, voyez-vous, voir que notre petitesse sans Dieu, c'est d'être réaliste. Mais par contre, moi qui suis à peu près rien, Dieu m'aime et Dieu pense à moi. Alors, c'est mon bonheur.
Parce que au fond,
donc, c'est, j'ai de la valeur.
Ça me paraît une démarche un petit peu négative de dire je suis rien, je suis si petit, je suis si...
Ça a l'air de ça, c'est comme vider la chambre pour que l'épouse rentre dedans, pour qu'elle ait de la place. Autrement dit, je suis un creux de Dieu que Dieu veut remplir complètement. Le creux, c'est la méditation, la saisie des épreuves de la vie, tout ça qui me montre que je suis fragile. Ça s'agit d'un petit virus puis je tombe à terre. Quand même pas se prendre pour d'autres. Mais par contre, ce creux que je suis de Dieu, Dieu veut le remplir, ça c'est l'oraison. C'est se tenir devant le Christ glorieux, amoureux de moi, qui m'a déjà réussi. Alors l'oraison, c'est la récitation ou la pensée ou le sentiment du Notre Père.
C'est une attitude d'accueil, de réception.
Total. C'est l'acte le plus passif et le plus producteur au niveau pédagogique. Tu te laisses faire par Dieu. Tu dis « fais ce que tu veux, je te donne toutes les commandes. »
Je suis là, je t'écoute.
Ouais. Dans tout ce qui va m'arriver, tout ce qui m'arrive est un élément que Dieu va utiliser pour me construire, que ce soit négatif ou positif. Et l'acceptant ainsi, à cause des mains de Dieu, parce que le mal est inacceptable, mais dès qu'il est dans les mains de Dieu, le négatif devient positif, c'est le signe de la croix glorieuse.
Donc vous dites, d'abord, la méditation.
Oui.
Ensuite, l'oraison.
Ensuite, la prière.
Oui.
Ça, la prière, c'est dialoguer ses sentiments avec Dieu, ce qui nous arrive
c'est
pas.
C'est là qu'on se donne le droit d'être là, soi-même.
Oui, là, c'est un dialogue. Mais il reste que l'acte le plus important de ce dialogue, c'est l'écoute de l'être aimé. Parce que pour savoir quoi dire à quelqu'un, il faut l'écouter. Alors Dieu a tellement de choses à nous dire dans nos silences, dans nos accueils. C'est là qu'il va nous instruire en profondeur. C'est là qu'il va nous faire vérifier les principes de la vie éternelle et leur pratique. Alors la prière, on l'a vu dans ceux qui ont vu le film « Un violon sur le toit ». C'est ça la prière, c'est d'être en dialogue permanent avec Dieu pour arriver finalement à être dans une zone de silence où se produit la contemplation.
Mais les moyens, je les comprends bien.
Il reste
bien.
La contemplation.
Ça devient le quatrième?
Oui. La contemplation, c'est une jouissance de Dieu. Parce qu'il est tellement extraordinaire. Alors, il nous libère dans toutes nos situations destructrices et la souffrance elle-même perd son aiguillon destructeur.
Je vois que tous ces moyens-là, ils sont très intérieurs, n'est-ce pas?
Oui, puis non. Intérieurs d'abord.
Parce que je cherche à vous faire dire des moyens pratico-pratiques d'actualiser
oui.
la béatitude.
Bon, alors la méditation, ça se passe dans le corps aussi. Par exemple, comment j'ai fait deux fois, moi, le trottoir, en pensant à Dieu, puis en pensant à son amour, en marchant corps par corps du ciment, je faisais des respirations et je me pratiquais à croire et à sentir l'amour de Dieu. Alors ça se fait sur le trottoir, sur quatre bourgeois, dans notre corps, parce que la spiritualité doit devenir physique.
D'accord, ça je veux bien. Mais ce qui me paraît manquer, à mon avis, là, c'est le rapport direct avec le monde, mon contact.
Ça, on le verra dans l'Eucharistie. Si je t'embrasse la main, je communie autant au Christ quand j'en reçois l'Eucharistie à Saint-Benoît.
Ben ça me fait plaisir à entendre, ouais. Parce que c'est un petit moyen qui est concret.
C'est pas un petit moyen, c'est le but. C'est même le but.
C'est la manifestation d'amour.
C'est le fruit de l'intériorité qui, extérieurement, produit des œuvres. Parce que la sainteté ou le projet de Dieu, c'est pas quelque chose d'intérieur qui reste là. C'est quelque chose qui s'extériorise et qui se symbolise dans des œuvres et dans des actions qui font vraiment voir l'action de Dieu en nous. Et c'est pour ça qu'on parlait des béatitudes selon Luc, qui sont au fond, si on allait au fond complètement, même dans Luc, c'était aussi ça dans sa pensée, qui sont le fruit des béatitudes de Matthieu. Autrement dit, quand Jésus dit « va dans ta chambre » en Matthieu 6:6, l'introduction de notre Père, « va dans ta chambre, ferme la porte ». Et prie ton Père, il te le rendra. Comment me le rendra-t-il? En étant présent à moi et en me faisant faire des merveilles.
Est-ce que je vais vous agresser si je reviens encore sur la notion de gratuité?
Oh non.
Au sujet de la prière, vous citez le Notre Père, puis j'aimerais vous poser une question au sujet d'une différence, moi qui m'a frappé, entre votre texte et la version courante, celle que tout le monde connaît. Vous écrivez. En effet, si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera à vous aussi. Et si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne vous pardonnera pas vos fautes. Fin de la citation. Or, nous, on dit bien, pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Alors, moi, j'ai deux questions. D'abord, est-ce qu'il s'agit d'un simple problème de traduction? Et sinon, Encore une fois, est-ce que le pardon de Dieu est conditionnel, comme vous semblez l'entendre dans votre formulation?
Bon, voilà une mosuse de belle question. Alors, une très belle question.
Elle me paraît gigantesque, en effet.
Elle était gigantesque. Je vais faire l'interprétation du comme. Alors, est-ce que...
L'interprétation du...
Comme.
Ah, du mot comme.
Du mot
oui,
comme.
D'accord.
Comme nous pardonnons. Alors, tout ce que je vais dire là, pendant quelques minutes, ça va être l'interprétation du mot comme, qui en contient large. Alors, est-ce que d'abord l'amour de Dieu est conditionnel? Ça fait 50 fois qu'on se dit que l'amour de Dieu est inconditionnel, qu'il n'y a pas de condition. La grâce n'a aucun prérequis. Elle est donnée totalement, sans prérequis, sans condition. Puis ça, disons-nous-le, 10 fois de suite pour être sûr. Parce que c'est ça l'Eucharistie, c'est ça la foi chrétienne, c'est d'être gratuit.
Mais on dirait qu'on arrive toujours avec des petits arguments qui sèment le doute.
OK, alors expliquons ça. L'interprétation du comme. Si je ne pardonne pas à mon frère, dans la mesure où je ne le fais pas, c'est le signe que je n'ai pas reçu le pardon de Dieu. C'est pas que Dieu me le refuse, c'est que je ne l'ai pas reçu. Parce que si je l'avais reçu, je serais incapable de ne pas faire comme Dieu.
Pourquoi est-ce que je ne l'ai pas reçu?
Ah, parce que j'y crois pas assez. Voyez-vous, on peut aller à la confesse, puis accuser nos péchés, puis après ça, on y repense des semaines de temps. C'est contre la foi, ça. Quand on se sent coupable, puis qu'on ne trouve pas pourquoi, détruisons ça par une prière de louange. Quand on se sent mal, puis quand on se sent coupable, puis on sait pourquoi, demandons pardon, puis après ça, pensons-y plus. C'est aussi important de plus y penser que de se faire pardonner. Alors, la foi dans le pardon de Dieu nous blanchit et nous rend heureux et incapable de ne pas faire la même chose pour les autres.
Moi,
alors, le
bien.
Pardon de Dieu qu'on ne produit pas en nous et entre nous, ça dépend qu'on n'a pas assez vécu le pardon du Christ. Alors, se rapprocher de la croix glorieuse du Christ, aller se baigner dans ses plaies pour vivre son amour, y toucher tant qu'on peut pour arriver à dire, « Moi, là, Dieu, là, c'est fini, ça, mes péchés, il les a détruits. » Alors, si j'en fais d'autres, il va même les détruire encore. Puis, il attend même pas mon aveu pour les détruire. C'est inconditionnel. Il est détruit avant que je me confesse. Alors, pourquoi je me confesse? C'est pour y croire puis pour manifester qu'il me sauve. Alors, l'amour de Dieu est inconditionnel et le « comme » veut dire que si je ne suis pas dans l'amour de Dieu, comme j'en ai reçu le pardon envers mes frères, ben ça marche pas.
Monsieur Truchon, au sujet du pardon, il y a quelque chose qui m'accroche un petit peu. Je pense qu'on a tous grandi avec la notion de pardon et de culpabilité qui est très inhérente. Et la culpabilité, elle traîne souvent bien longtemps. On nous a annoncé qu'une faute était pardonnée, mais on continue d'en porter le fardeau pendant trop longtemps. Comment est-ce qu'on fait pour s'en décharger?
Oui, la culpabilité, c'est de la pourriture dans nos relations. Ça tue nos relations. C'est du matériel psychiatrique. Ça nous conduit dans des maladies. Le refus de souffrance augmente nos culpabilités, engendre nos maladies. Alors, moi, c'est quoi qui m'arrive, moi, dans ma vie? Je suis rendu à 63 ans, puis je suis en train de réussir mon adolescence. C'est quoi qui se passe, là? C'est quoi qui s'est passé, là? C'est que depuis 6 ans, surtout, je fais de la méditation beaucoup. Alors, c'est quoi qui se passe? Comment arriver? C'est que j'ai passé ma vie dans le péché. J'ai passé ma vie dans les obstacles puis dans les problèmes. Mais je me disais tout le temps, non, ça se peut pas, Dieu, il m'aime. Ouais, mon Truchon, Dieu, il m'aime. Alors, à chaque fois que j'avais un problème, je disais, non, Dieu, il m'aime. À chaque fois que je faisais un péché, je disais, non, Dieu, il m'aime. Ben, j'en ai tellement fait, j'ai fini par y croire.
Est-ce qu'on n'associe pas la souffrance au péché et inversement?
La Bible le fait, mais c'est pas ça qui est important. C'est la croyance dans l'amour de Dieu. C'est pas la croyance dans le péché, c'est le moyen d'en sortir. Alors, à chaque fois qu'on a un problème ou un péché, on devrait dire « Dieu m'aime, j'y crois, Dieu, tu m'aimes ». Et on détruit notre culpabilité, on détruit notre angoisse. Encore une fois, quand on se sent coupable, on ne sait même pas pourquoi, on a du matériel psychiatrique, là. Alors, comment est-ce qu'on fait? C'est qu'on détruit ça. Comment est-ce qu'on fait pour détruire ça? On dit « Dieu m'aime, j'y demande pardon, c'est fini, je ne sais même pas pourquoi j'y demande pardon, mais je suis toujours de travers, je me sens toujours de travers, mon Dieu, je ne sais pas ce que j'ai, mais je te donne ça, je sais que tu es mort pour détruire ça, alors je crois que tu le détruis. » Et à force de faire ça, ça disparaît.
Mais vous savez à quel point la raison tend souvent à prendre le dessus. C'est pas dans nos tripes, c'est pas dans notre cœur qu'on arrive tout le temps à dire « Oui, je suis pardonné, c'est terminé, c'est derrière moi. »
Alors, prions et jeûnons et faisons du bien à ceux qui nous entourent et nous allons détruire le mal. Alors, prier, c'est pouvoir fonctionner au-delà de nos limites. Alors, à ce moment-là, on dit à Dieu, je crois en toi. Je sais que tout en moi se révolte, puis ça marche pas, là. Mais je crois en toi, je crois dans ton amour. Et moi, je regardais le crucifix sur un crucifix, et je voyais bien qu'il m'aimait tout le temps. Alors, à ce moment-là, ça rentre dans un sens. Par la vision et par la prière qui est en mots, là, ça crée des distances thérapeutiques, et finalement, ça rentre dans notre corps. À un moment donné, Dieu est dans notre corps, le temple du Saint-Esprit. Alors, aussi le jeûne. Je sautais des repas de temps en temps, un par semaine, je sautais un repas. Le jeûne, c'est un instrument de connaissance. Un homme de science, c'est quoi qui sait? Comment est-ce qu'il fait pour ça? Comment est-ce qu'on progresse en science? C'est le principe de causalité. C'est qu'il enlève quelque chose, puis il regarde si le fait se produit. Alors, en enlevant la chose, si le fait se produit plus, il dit, ça y est, c'est à cause, je l'ai trouvé. Alors, le jeûne, ça permet de découvrir tous nos instincts, leur orientation, leur puissance. Et le jeûne, dans la prière, et surtout pour arriver à l'amour, la miséricorde, Matthieu 5 à 7 explique ça. Quand Jésus parle du jeûne, ce que je veux, c'est pas le jeûne, c'est pas les sacrifices, c'est l'amour. Mais il reste que sauter un repas, ça manifeste la puissance de notre esprit et ça nous instruit sur nous-mêmes. Et nous instruire sur nous-mêmes dans la prière, ça nous fait connaître Dieu aussi. Et connaître Dieu dans la prière, ça nous fait nous connaître nous-mêmes. Alors, les moyens de détruire le péché, c'est de croire à l'amour de Dieu, puis d'y dire, puis d'y penser tout le temps, tout le temps. Pour arriver à être en prière permanente, c'est-à-dire être dans une manière de vivre qui est en union avec Dieu. Parce que la prière, prenez le Notre Père, il dit, demandez tout ce que vous voudrez. Tu veux un bécic à gaz, demande-en 10, il n'y a pas de problème. Sois pas constipé, c'est l'océan. Seulement que, à un moment donné, à place de demander ceci, cela, moi, si Dieu m'avait tout accordé ce que j'ai demandé, j'aurais même plus de place à bouger tellement que j'en aurais. Alors, merci, mon Dieu, de pas m'avoir tout donné ce que j'ai demandé. Mais par contre, tu m'as donné plus que ce que je demandais. Alors, à un moment donné, on ne demande plus rien à Dieu. On dit, je t'aime. Tu fais ce que tu veux.
Au sujet du jeûne, j'ai une petite question à vous poser. Est-ce que c'est bien vrai que le jeûne a une incidence physique sur l'esprit?
Le jeûne, non. Comme les respirations en priant, c'est le lien entre le corps et l'esprit. Voyez-vous, aujourd'hui, on fume des joints, on cherche un conjoint, on cherche à faire des joints, on voit bien qu'on est dans un problème de joints.
On cherche à se connecter.
On cherche à se connecter, à réparer rupture, rupture avec mon corps, rupture avec mon voisin, rupture avec un tel, rupture avec moi-même, rupture dans ma foi. Alors, nourrir notre foi en l'amour de Dieu. Jeûner, c'est-à-dire se priver pour communier à ceux qui manquent. Alors, qu'il bouge donc bien ses sens en mangeant bien, celui qui veut pas que l'amour le dévore. Alors, jeûner, ça fait communier aux pauvres, aux gens qui sont misérables. Ça aide à prier. Ça veut pas dire se faire mourir à jeûner. Je sais, j'ai déjà été fou, j'ai déjà fait des folies, là. Mais aujourd'hui, je le fais avec sagesse. Puis là, ça fait 6 mois que j'ai pas jeûné. Au moment donné, je vais sauter un pas. C'est pas ça qui est le problème. C'est pas ça, pas le jeûne qui est important. C'est la maîtrise de l'esprit, de notre corps, et la soumission de notre corps à notre esprit, et la soumission de notre esprit à Dieu dans l'obéissance de la foi en son amour.
Je pense que c'est très bien dit. Merci, M. Truchon. Même si c'est impossible là, de cerner toute la question, on s'est quand même penché sur les principaux aspects de la pauvreté et du royaume dans la première béatitude. J'aimerais que vous nous fassiez une espèce de petite conclusion là, sur le message essentiel avant qu'on se quitte.
Oui. Psaume 50, d'abord, qui dit « Seigneur, je crie vers toi, sauve-moi, je suis fini. » Ça, c'est le début véritable d'une foi, ça. Être mal pris. Il y en a qui disent c'est de la drogue, c'est comme de l'opium, cette fouet-là. Peut-être au départ, mais une fois éclairé, va faire lâcher l'aspect drogue là-dedans. Et la prière, c'est une drogue, oui puis non, c'est que c'est une relation, ça aboutit à une relation d'amour quand on est sincère. Et Dieu écoute l'homme qui crie vers lui. Et ceux qui ne crient pas, ben, ils devraient crier, surtout s'ils sont malheureux. Alors, de toute façon, le cri est la prière la plus parfaite quand ça commence les béatitudes vraiment. Là. C'est qu'à un moment donné, sans Dieu, on sent qu'on ne s'en sortira pas. Alors, les épreuves, tout ce qui nous arrive, sont là pour montrer nos déficiences, pour détruire notre autosuffisance. Parce que l'autosuffisance produit l'incroyance. Il y a une autosuffisance qui est bonne. Bien sûr, si je suis capable de me faire vivre, c'est une bonne chose. Mais que je sache que ça vient toujours de Dieu. Les dons de Dieu sont sans repentance et continuels. Surtout mon autonomie et même mes richesses. Et les donner toutes à Dieu par acte d'amour et les donner aussi à mon prochain dans une relation équitable de justice personnelle et collective. Autrement dit, arriver à servir Dieu dans mon prochain, à le connaître par moi-même, dans moi-même et dans mon prochain, par l'Esprit Saint en chacun. Voilà le bonheur qu'on peut vivre en soi-même et arriver à partager entre nous. Mais pour ça, il faut faire de la méditation, de l'oraison, de la prière, de la contemplation et aussi de l'étude de la Bible. Mais pas pour nous condamner, pour nous montrer son amour.